Romains chapitre 15, on va le lire. C'est vraiment le début de Romains 15 et la suite de Romains 14. Et donc la division en chapitres ici ne respecte pas toujours nécessairement le dans la Bible. Il faut savoir que les chapitres parfois découpent artificiellement un passage. Et si par exemple on lit un peu les versets qui précèdent dans Romains 14. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. Mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui est pour ton frère une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'il croit et sa manière de vivre. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Nous qui sommes forts, chapitre 15, verset 1, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. On va s'arrêter là. On a lu donc Romains chapitre 15, versets 1 à 7, qui fait suite à Romains 14. Ici, il est dit au verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Et Paul a parlé déjà au chapitre 14, verset 1, « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Ça veut dire que celui qui est fort dans la foi, pour Paul, c'est celui qui a compris qu'on peut manger de tout, que les jours sont égaux, et qu'il y a pas, on n'est plus sous la loi, etc., etc. Vous voyez ? Mais il y en a pour qui ces choses ont encore de l'importance, parce qu'ils n'ont pas cette force dans la foi. Et donc Paul pourrait dire, nous qui sommes forts, imposons aux faibles notre nouvelle loi en leur disant, arrêtez de vous faire des films, et puis faites comme nous, mangez ce que vous voulez. Il dit non, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts comme nous, donc, voyez. C'est-à-dire, on ne doit pas chercher à montrer nos muscles, à montrer qu'on est les plus forts, mais on doit toujours voir l'unité du corps, voyez. Verset 7, « Faites-vous bon accueil les uns aux autres, comme Christ vous a vous-même accueilli pour la gloire de Dieu. » Donc on s'accueille les uns les autres. Les uns les autres ici, c'est les Juifs et les Grecs. Les Juifs qui avaient un souci avec la loi de Moïse et qui avaient de la peine à comprendre la grâce à 100%, d'accord, par exemple, et qui étaient choqués par les Grecs ou les non-Juifs, qui, eux, bénéficiaient de la grâce sans se poser de questions et tout en faisant des choses qui, à leurs yeux, étaient mauvaises. Vous voyez ? Et donc, Paul dit quelque part aux Grecs, faites attention de ne pas choquer la foi de vos frères inutilement, faites-vous bon accueil, c'est-à-dire apprenez à plaire au prochain, dans le sens plaire au prochain, Paul précise, pour ce qui est bien. Vous voyez? Pas plaire au prochain, parce que il faut d'abord plaire à Dieu, c'est clair dans la pensée de Paul partout. Paul veut plaire à Dieu, mais et donc Paul ne va jamais faire de compromis avec la vérité. Mais quand il ne s'agit pas de compromis avec la vérité, quand il s'agit de relations dans le corps de Christ, Paul dit, supportez les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, et puis accueillez-vous mutuellement, et ne cherchez pas ce qui vous plaît, mais cherchez à mettre à l'aise les autres, d'accord, pour éviter les divisions. Et il donne l'exemple de Jésus, verset 3, car le Christ, c'est-à-dire littéralement celui qui est oint du Saint-Esprit, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Voyez. Par exemple, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et puis aussi, il cite un passage de l'Ancien Testament, le psaume 69, qui dit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. C'est-à-dire que Jésus est devenu comme un paratonnerre pour les insultes et la persécution. Et il est mort à notre place, il a souffert à notre place, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a vécu pour le salut d'un grand nombre. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, parce que Paul ici, comment dire, a cité un psaume, et il explique pourquoi ce psaume nous concerne nous aussi aujourd'hui. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si on part du verset 5, Dieu est un Dieu de patience et de consolation. La nature de Dieu, c'est la fidélité, la patience. Il nous supporte, il nous accueille, il nous aime. Vous voyez? Il est plein de patience, beaucoup plus que nous, évidemment. Et donc, maintenant, les Écritures, pour Paul, c'était l'Ancien Testament, ici, en tout cas, dans le contexte, il dit les Écritures nous donne cette patience et cette consolation de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures nous montrent la nature de Dieu, elles nous révèlent qui est Dieu. Et quand on contemple Dieu, quand on se nourrit avec les Écritures, eh bien, on est transformé parce qu'on contemple Dieu dans l'Écriture. Ça nous transforme nous-mêmes. Et donc, ça nous communique quelque chose de la nature de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on étudie les Écritures. Alors, on a, verset 5, le Dieu de la patience et de la consolation. On a, verset 4, les Écritures qui nous donnent la patience et la consolation. Et on a, verset 3, le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint du Saint-Esprit. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, d'accord? Et donc, il a mis en pratique cette patience et cette consolation. Il a supporté les choses, vous voyez? Il ne s'est pas, entre guillemets, imposé. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a été serviteur. Il a eu un esprit de service. Il a souffert à notre place. Il a cherché l'unité, il a cherché la réconciliation. Il était venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Vous voyez? Et pour ça, il n'a pas cherché ce qui lui plaît. Il a accepté, c'est-à-dire que Jésus a accepté des insultes, il a accepté des accusations. Quand je dis qu'il les a acceptées, ce n'est pas qu'il les a crues, d'accord? Mais il ne s'est pas défendu. Vous voyez la différence? Il n'a pas cherché à se défendre, il aurait pu se défendre, il n'a pas cherché à s'imposer, mais il a pris sur lui une condamnation qu'il ne méritait pas, à notre place. Pourquoi? parce qu'il veut nous réconcilier avec le Père. Vous suivez? Donc clairement, non seulement il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, Jésus, mais en plus il a subi des choses qu'il ne méritait pas pour nous. Vous voyez? Donc ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le Père est plein de patience et de consolation. Que les Écritures nous donnent aussi cette patience et cette consolation. Et que l'onction qui était sur Jésus l'a amené, et sa propre nature l'ont amené, à mettre en pratique cette patience, cet accueil, cet amour et cette consolation. Amen. Et donc que nous, on peut recevoir ce caractère de Jésus pour aimer, pour supporter, vous voyez, pour ne pas chercher ce qui nous plaît. Tu peux pousser la table. Voilà, pousse-la un bon coup. Voilà, parce que là, sinon, t'es... Et tu peux même prendre la tienne de table... Ouais, la tirer dans ce sens-là, un petit peu. Voilà, super. Très bien. Donc, verset 5, « Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, à les autres, selon le Christ Jésus, ou selon Jésus-Christ, c'est-à-dire selon l'exemple que Jésus nous a donné lorsqu'il était oint du Saint-Esprit. » Le Christ, ça veut dire le oint. Ok ? Afin que, d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, pour qu'il y ait l'unité dans le corps de Christ, et qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, il faut que chaque membre du corps de Christ ressemble à Jésus en termes de caractère. Il faut qu'on apprenne à se supporter les uns les autres, vous voyez, à s'aimer les uns les autres. Mais quand on s'aime les uns les autres, on ne s'aime pas parce qu'on est aimable, nécessairement. Des fois, c'est facile d'aimer quand quelqu'un est vraiment aimable, mais c'est plus difficile d'aimer quand on a l'impression que notre frère ou notre sœur en Christ est devenu notre pire ennemi parce qu'il nous critique, parce qu'il nous accuse ou parce qu'il est insupportable. Et c'est là que Dieu nous dit, oui, justement, Jésus a fait la même chose pour toi, il est mort pour toi, et toi donc, par rapport à ton frère ou à l'autre membre du corps de Christ, qui est pour le moment difficile à comprendre, insupportable, qui n'a pas la même opinion que toi, qui mange des légumes alors que toi tu manges la viande, ou qui ne veut pas manger de viande, etc., etc. Enfin, qui veut manger la viande alors que toi tu ne veux pas en manger. Enfin, dans toutes ces circonstances-là, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. En bref, vous suivez? Ça veut dire qu'on ne peut pas juste prétendre que parce qu'on est quelqu'un est chrétien, alors, s'il fait quelque chose qui n'est pas chrétien, souvent, qu'est-ce qu'on dira? Ah ben lui, il n'est même pas chrétien. Et comme ça, on se dispense de l'aimer malgré tout et de l'accueillir malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se sépare en disant, lui, il n'est même pas chrétien, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Alors que peut-être simplement, c'est quelqu'un qui est fort dans la foi ou qui est faible dans la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même niveau de conscience ou là où tu en es. Et pour lui, ce qui pour toi est un scandale, pour lui, c'est rien du tout. Ou bien ce qui pour toi est rien du tout, pour lui, c'est un scandale. Vous suivez? Et donc, il y a matière à faire la guerre, là. Et souvent, il y a la guerre dans le corps de Christ. Mais c'est une guerre qui est inutile. Parce qu'on est membre du même corps. Et donc, si avec votre poing, vous donnez des coups de poing tous les jours, on va vous enfermer dans un asile psychiatrique en disant que vous faites de l'automutilation, non? Si vous êtes membre du même corps, vous êtes censé vous aider, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous gratte, eh ben vous vous grattez. Vous suivez? S'il y a de la sueur sur votre front, vous essuyez votre front. Donc votre main aide votre tête. Et puis quand votre main a de la peine à trouver la vis ou le boulon quand vous faites de la mécanique, vos yeux vous aident. Et donc on s'entraide entre membres du corps de Christ. Pourtant les yeux... J'allais dire, n'ont pas la même vision que la main, et la main n'a pas la même vision que les yeux. Mais ce n'est pas grave, on s'entraide quand même. Et c'est même bien qu'on n'ait pas la même vision, parce que ça nous complète. Vous suivez?
Mais c'est dans le corps de Christ.
Ça, c'est dans le corps de Christ, on est bien d'accord. Tu me diras, oui, mais alors dans ce cas-là, j'ai le droit de haïr les gens qui ne sont pas chrétiens, alors. Non, non, même pas, puisque Jésus nous parle d'aimer nos ennemis. Mais ne serait-ce que déjà dans le corps de Christ. Puisque là, dans le chapitre 14 et 15, on est dans le corps de Christ. Déjà là, si on pouvait mettre cet amour en pratique, eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que dans le corps de Christ, on peut avoir des histoires pas possibles. Des gens qui nous choquent, des gens qui nous scandalisent. Vous suivez? Et c'était, Paul le savait, il savait qu'il y avait un problème entre, notamment à l'époque, dans le contexte historique, il y avait ce problème entre les disciples de Jésus qui étaient issus directement du judaïsme et les disciples de Jésus qui étaient issus de villes comme Corinthe ou Rome, ou qui étaient des Grecs et qui avaient aucune, comment dire, qui étaient des parfaits païens, si on peut dire ça comme ça, à la base. Vous voyez? Et donc, ils ne connaissaient pas la loi de Moïse ou qui la respectaient pas du tout, et pour eux, ça leur passait par-dessus la tête. Et donc, vous imaginez que, étant les uns et les autres en Christ, se retrouvant à la même table, parce que la première église était très communautaire, encore s'ils s'étaient juste réunis le dimanche matin, et puis ensuite tout le monde se sépare, ils auraient pu éventuellement trouver un compromis. Mais à l'époque, on mangeait ensemble. On faisait tout ensemble dans l'église. C'était beaucoup plus communautaire qu'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, vivre ensemble la vie chrétienne avec des gens qui sont différents de vous, qui ont une autre culture que vous, une autre mentalité, c'est pas simple. OK? Au début, c'est sympa.
Oui,
On
c'est
trouve
très
c'est
sympa.
merveilleux, oh, comme il est drôle, oh, comme il est sympa. Comme... Et puis au bout de 3 mois, vous allez voir. Même pas 3 mois, 3 semaines ou quelques jours. Vous voyez? Tout à coup, il y a une crise. Et donc Paul nous dit, accueillez-vous, faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu, verset 7 du chapitre 15. Parce qu'en bref, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Dieu a lui aussi, on va éteindre la... Il faut dire que c'est Noël, hein, donc on a la musique de Noël. Dieu a lui aussi une culture, vous voyez? Il a une culture. Dieu a une culture, Dieu a des choses qui le choquent chez nous. OK? Et nous, il y a des choses qui nous choquent avec Dieu, figurez-vous. On ne comprend pas, vous lisez des choses dans la Bible, vous dites, mais non, c'est pas possible. Dieu n'a pas pu faire ça. Et donc, il y a un choc de culture aussi entre Dieu et les hommes. Parce que nous, on est marqués par le péché. Vous voyez? Et pourtant, Christ est venu dans ce monde. Et dans ce choc de culture, on a décidé de le crucifier, parce qu'on ne le supportait pas. Et Jésus lui-même a dit, je suis venu montrer aux hommes leur péché, et eux, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous voyez? Il y a un choc entre la lumière et les ténèbres. Et donc, on l'a crucifié, et c'est pour ça qu'il est dit ici. Le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. C'est les outrages de qui? C'est nos outrages. C'est la souffrance qu'on lui a infligée sur la croix. Vous voyez? Verset 8. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis. Les circoncis, c'est donc les Juifs qui connaissent la loi de Moïse, qui l'ont pratiquée pendant des siècles. Et qui avait un mépris pour les Grecs. Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est venu prêcher l'Évangile sur la terre d'Israël, en commençant par enfin, la Judée, ensuite la Galilée, etc., jusqu'à Jérusalem et tout ça, et dans toutes les villes d'Israël, les disciples avaient été envoyés, Jésus passait de ville en ville, et il disait bien à ses disciples, n'annoncez la bonne nouvelle qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham, et donc il était lui-même l'accomplissement de cette promesse, et il voulait que son peuple soit le premier à recevoir la bonne nouvelle du pardon des péchés. Vous suivez? Et donc, il est devenu le serviteur au sens serviteur de la parole de Dieu, voyez, celui qui apporte la bonne nouvelle du pardon des péchés, serviteur des brebis perdues de la maison d'Israël, si vous préférez, les circoncis, pour prouver la véracité de Dieu dans le sens que Dieu avait dit qu'il le ferait et que Dieu avait annoncé ce pardon pour Israël. Il y a des prophéties dans Ézéchiel, il y a des prophéties dans Jérémie. Je vous donnerai un nouveau cœur. voyez, je pardonnerai vos péchés, etc. Donc Dieu, il est vrai, il est fidèle à sa parole, il accomplit sa parole. Donc il commence par Israël. C'est pour ça que Jésus était très, comment dire, pas sévère, mais il était, il voulait que la bonne nouvelle soit d'abord annoncée à Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Vous suivez? Même si, en cours de route, quelques païens ont pu prendre les miettes qui tombaient sous la table. Vous voyez? Mais, parce que c'était prophétiquement le fait que déjà, à la porte d'Israël, il y a les nations qui poussaient en disant, nous aussi, on veut la grâce. Vous voyez? Et puis, Jésus a maintenu la porte fermée le plus longtemps possible, en disant, attendez les gars, attendez, 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 on arrive, on arrive. Mais d'abord, les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous suivez comment ça marche? Hein? Si je caricature un petit peu. Donc je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Là, on parle d'Israël. Tandis que, verset 9, vous avez remarqué dans Romains 8, 9, 10 et 11, il y a toujours cette notion des païens et des juifs et des non-juifs. Hein. Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Ésaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. Alors, un instant, s'il vous plaît. On va juste revenir sur ce mot nation. Quelques instants. Je vous explique pourquoi. Parce que dans votre Bible, à certains moments, c'est marqué païen. C'est un mot qui veut dire paysan au départ. C'est les gens si vous voulez, des campagnes qui n'avaient pas la religion des villes, en quelque sorte. Alors, Romains 15, on est. Verset 9, tandis que les païens glorifient Dieu, dans ma traduction en tout cas. Toi, tu as les non-juifs dans ta traduction. Et puis en grec, c'est les ethnies. Ta ethnée. Vous voyez? Et donc, et puis ensuite, c'est les ethnies au sens des nations. Donc, ce n'est pas les païens qu'il faudrait dire, il faudrait dire les nations. Il faudrait traduire. Tandis que les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, parce que c'est exactement le même mot au verset, comment dire, dans la citation de l'Ancien Testament, au milieu du verset 9, qu'au début du verset 9. Dans nos traductions, c'est marqué païen, et puis ensuite nation. Ben, c'est comment dire, bien sûr, païen par opposition aux juifs, donc on pourrait traduire non-juif, mais dans le texte original, c'est marqué nation. Tout court. Les nations, bien sûr, sous-entendu, pas Israël, celles qui ne sont pas Israël. Oui. Donc, les nations qui ne sont pas Israël glorifient Dieu pour sa miséricorde, parce que elles, évidemment, elles ne méritent rien. Vous voyez? C'est pas vers elles d'abord que Jésus est venu, c'est d'abord vers son peuple. Vous suivez? Mais les nations se rendent compte que par une grâce extraordinaire de Dieu, elles aussi peuvent participer à la bénédiction. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Voyez des fois que dans un seul verset, il y a beaucoup de choses, et quand on lit un peu vite, on passe par-dessus parce que c'est un langage, c'est presque un langage codé chez Paul. Quand il dit circoncis, il faut comprendre Israël. Quand il dit les nations, il faut comprendre les non-juifs. Vous voyez? Quand il dit la véracité de Dieu en confirmant les promesses, il faut comprendre tout l'Ancien Testament, les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, etc., qui avaient annoncé le pardon, que le Messie viendrait, qu'il y aurait le pardon des péchés pour Israël. Vous voyez, tout ça, c'est sous-entendu, c'est un langage codé. Codé entre guillemets, hein, mais un langage pour initier, on va dire. Verset 3 du chapitre 3 d'Éphésiens, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Il faut dire que le mot mystère, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose qui restera mystérieux pour toujours, c'est quelque chose qui n'a pas été connu pendant une période de temps et qui maintenant est révélé. Comme je viens d'écrire en quelques mots, en lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, verset 4. Ce mystère, verset 5, n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Deux points. C'est quoi le mystère de Christ? La grande révélation, la plus grande révélation de la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Regardez. Les païens, de nouveau, dans le grec, c'est marqué les ethnies. Les peuples, les nations ont un même héritage, sous-entendu que qui ? Bah, que Israël. Vous voyez ? Ont un même héritage, forment un même corps avec les Juifs, sous-entendu. Ça, c'est le contexte de l'ensemble de l'épître aux Éphésiens qui nous permet de savoir que, sous-entendu, c'est... Donc, ont un même héritage. Ça ne veut pas dire qu'elles ont un même héritage entre elles. Par exemple, les Japonais ont le même héritage que les Français. Non, ça veut dire que Japonais et Français ont le même héritage qu'Israël. Vous suivez la différence? Forment un même corps avec Israël. Et participent à la même promesse que celle qui avait été faite à Israël. En Jésus-Christ, par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur. C'est le même mot serviteur qui est utilisé dans Romains 15, verset 8, quand il est dit que Christ est devenu serviteur des circoncis, vous voyez, parce qu'il était serviteur de l'Évangile, donc il est serviteur de Dieu pour les nations et pour Israël, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Vous suivez? Donc, ce grand mystère, cette grande révélation, le sommet de la gloire dans la Nouvelle Alliance, c'est que juifs et non-juifs sont ensemble dans le même corps, la même promesse, la même bénédiction. Amen. Ça, pour Paul, c'était le sommet de la révélation. Il est dit encore, verset 10, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Vous voyez ? Avec son peuple, c'est-à-dire avec Israël. Vous pouvez vous réjouir avec Israël parce que vous participez à la même promesse, etc. Et louez, verset 11, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. » Donc, il prend plusieurs citations, psaumes, Ésaïe, dans les prophètes, pour appuyer ce qu'il dit. Hein, comme pour dire, déjà dans l'Ancien Testament, ces choses avaient été promises. Mais on ne pouvait pas vraiment les comprendre, ça paraissait mystérieux. Maintenant, c'est clair. Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. » Donc là, il est parlé de Jésus. Hein. « Celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. » Donc le rejeton... Alors, Isaïe, ici, c'est le père de David. Le rejeton d'Isaïe, c'est le fils de David. Et le fils de David, oui, de nouveau, c'est un langage codé. Et le fils de David, c'est le Messie. Donc, on pourrait traduire, il paraîtra le Messie, celui qui se lèvera pour faire quoi? Pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. Donc, on voit que le Messie ne vient pas que pour Israël, mais qu'il va se lever pour les nations. Vous suivez? Que le Dieu, verset 13, de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi tout à coup, Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse, etc. C'est parce que il vient de dire au verset 12, les nations espéreront en lui. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, vous allez comprendre. On revient un peu en arrière. Dans Éphésiens 2, il est dit, souvenez-vous, verset 11, « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair. » Donc, païens, toujours, c'est le mauvais mot, hein, rappelez-vous, c'est ethnie, littéralement. Hein, voilà, non-juif dans la chair, hein, ou non-juif de naissance. « Traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis. » Quand il dit qu'ils se disent circoncis, c'est par allusion au fait que leur circoncision, si elle n'est pas dans le cœur, elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ok ? Vous étiez des expatriés par rapport à la nation qui, elle, a l'espérance, a le Dieu d'Israël, les bénédictions. Vous étiez dehors. Vous étiez des expatriés. Vous étiez comme... vous voyez, moi, on s'occupe de migrants ici à Marseille. Ces gens-là, ils ont... L'autre jour, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un migrant, puis il a reçu un peu d'argent par l'OFI et il voulait s'ouvrir un compte. Et la banque a dit, mais vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de... On ne peut pas vous ouvrir un compte. Vous n'avez pas... Pour nous, vous n'avez pas d'existence juridique, légale, donc... sans espérance, vous voyez, sans... Voilà. Il ne peut pas ouvrir un compte. Il a de l'argent, il ne peut pas ouvrir un compte. OK? Et puis, il n'y a pas que ça. Il ne sait pas combien de temps il peut rester en France, etc., etc. Donc, sans espérance. C'était ça, l'état des non-juifs dans le monde. Par rapport à comparer avec Israël, qui, eux, avaient le temple, la gloire, le culte, les promesses, les patriarches, etc. Dont Paul parle dans Romains 9, versets 1 et suivant. Il dit que le Messie, verset 12 de Romains 15, va paraître, va se lever. Et puis, il va commander aux nations, et les nations espéreront en lui. Parce que en lui, on a les mêmes promesses que les Juifs, on participe à la même grâce, etc., etc. Et donc, par conséquent, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse. C'est qui, vous, ici? C'est nous qui sommes issus des nations, des non-juifs, vous voyez? Hein? De toute joie et de toute paix dans la foi, et puis aussi, il s'agit aussi des circoncis, finalement, qui sont entrés dans le corps de Christ, et qui, bien sûr, pouvaient désespérer, parce qu'ils attendaient le Messie, ils ne venaient pas, en disant, mais il est venu, c'est bon, vous aussi, vous pouvez, votre espérance, elle a enfin trouvé son but, hein? Son accomplissement, je veux dire. Que le Dieu de l'espérance, donc, pour vous, juifs, et pour vous, non-juifs, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc il dit, eh bien, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de cette espérance pour qu'elle abonde toujours plus par la puissance du Saint-Esprit. Et voyez que l'espérance, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez faire une étude dans le Nouveau Testament sur l'espérance. C'est un thème étonnamment dont on parle relativement peu. On parle beaucoup de la foi, tout le temps, la foi, la foi, la foi, la foi, mais aussi l'espérance. Hein? Vous savez ce que Paul dit, pardon, dans 1 Corinthiens 13, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc l'espérance a sa place entre la foi et l'amour. Pourquoi? Parce que, il est dit ici, vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi. Donc la foi est présente, évidemment. Mais l'espérance, pourquoi? Parce que tout n'est pas encore accompli. On est entre la première venue du Messie et son retour. Et entre les deux, il y a le fil conducteur de l'espérance. Vous voyez? Parce que sinon, chaque fois qu'on a un coup dur, on pourrait baisser les bras en disant bah, « Dieu n'est plus avec moi, il m'a abandonné », mais pas du tout. Il faut que par la puissance du Saint-Esprit, on puisse abonder en espérance. On a une promesse. On a été unis à Israël dans la même promesse, dans le même destin, d'accord? Du retour du Messie, d'une Jérusalem céleste. Et on attend ces choses. Et aujourd'hui, ce qu'on a par le Saint-Esprit au niveau de la foi, c'est les arts de l'Esprit, c'est-à-dire c'est des acomptes. On n'a pas toute la somme, vous suivez? On est des acomptes sur l'héritage, on n'a pas encore touché la totalité de l'héritage avec la résurrection des corps, la Jérusalem céleste et toutes ces choses. Il y a encore des souffrances, il y a encore des bagarres, il y a encore des luttes, c'est normal. Et c'est pour ça que Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est-à-dire que votre foi ne soit pas une foi sèche, mais une foi qui soit remplie de joie, une foi qui soit remplie de paix, une foi qui soit remplie d'espérance. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. En fait, ce n'est pas la foi contre l'espérance, c'est les deux qui marchent ensemble. Hein? Verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et capable de vous avertir les uns les autres. » Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Ok. Paul, verset 14, dit en fait, en bref, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous êtes censé déjà le savoir. Et si ça se trouve, vous n'avez rien appris de nouveau. Vous êtes déjà en crise, vous connaissez déjà ces choses. Mais, verset 15, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. C'est-à-dire que Paul est plein d'humilité et il sait aussi que parmi ceux qui reçoivent sa lettre, certains ont déjà entendu ce message. Et pourraient se dire pourquoi est-ce qu'il nous répète des choses qu'on sait déjà. C'est parce qu'on a besoin de les réentendre. Il parle de réveiller vos souvenirs. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on entend des choses, elles nous marquent profondément, elles nous réchauffent le cœur, elles nous donnent la vie. Et puis après, c'est comme un sous-marin qui sort de l'eau pendant quelques heures, puis ensuite, hop, il replonge, et on est de nouveau sous la vague. Vous voyez ? Et donc, de temps en temps, il faut remonter à la surface et reprendre l'oxygène du ciel. Vous voyez ? Et Paul dit, c'est pour réveiller vos souvenirs, pour redonner l'oxygène de l'espérance, l'oxygène de la foi. Ok ? Vous avez besoin de réentendre ces choses, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être réveillé. Et il dit, pourquoi est-ce que j'ai cette hardiesse, et pourquoi est-ce que je réveille vos souvenirs ? C'est parce que j'ai une vision. Et là, Paul, de manière très intéressante, va nous donner un éclairage sur ce qu'il voit, lui, dans le monde spirituel. Et ça, c'est très intéressant. Regardez, qu'est-ce qu'il voit ? À cause de la grâce que Dieu m'a faite, verset 15, fin du verset 15, début du verset 16, chapitre 15 des Romains, d'être, on va traduire littéralement, serviteur, parce que le bon ministre est bien gentil, mais en fait, c'est serviteur, d'être serviteur du Messie Jésus pour les nations. Enlevez ce mot païen, mettez nation, parce que c'est vraiment le mot qui est dans le texte. D'être serviteur du Messie Jésus pour les nations. Donc maintenant, première chose, donc Paul est serviteur de Jésus-Christ, qui a été oint du Saint-Esprit, donc il a le même esprit avec lui, pour les nations. Ok ? Ça change tout. Ça veut dire qu'il y a une vision pour les nations. Dieu veut que les nations soient sauvées. Alors, je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu. Et le mot sacré ici, c'est un mot qui est utilisé dans le grec pour les temples païens grecs, par exemple. Vous voyez ? Il parle du service du temple. Afin que les nations lui soient une offrande. Oui, les offrandes, c'est aussi le vocabulaire du service des sacrificateurs dans un temple. Donc, il utilise un vocabulaire grec qui était utilisé dans les cultes païens grecs, mais qui correspond bien sûr pour lui au temple de Dieu, le tabernacle. Une offrande agréable sanctifiée par l'Esprit Saint. Et donc, c'est comme si Paul se trouve dans le temple, mais c'est le temple céleste, et que son service de l'évangile, pour nous l'évangile c'est être sur la terre, prêcher l'évangile à des gens qui parlent une autre langue que nous par exemple, mais pour lui c'est plus que ça. C'est présenter ces personnes-là qui reçoivent l'évangile comme une offrande dans le temple de Dieu, et une offrande qui soit sanctifiée par l'Esprit Saint, vous suivez ? Donc Paul est sacrificateur, il n'est pas juste évangéliste, il est sacrificateur. Ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas juste d'avoir des conversions, mais il s'inquiète que ces gens qui ont été sauvés soit sanctifié, soit présentable pour Dieu. Vous suivez? Qu'il soit présentable. Vous avez remarqué les parents, comment ils font avec les enfants? Quand vous croisez dans votre bâtiment, si vous habitez dans un bâtiment, ou bien dans le quartier, dis bonjour à la dame, dis bonjour, dis merci quand on leur donne quelque chose. On veut que les enfants soient présentables. Et puis, ils sont bien habillés. Et puis, qu'est-ce qu'on ne dépense pas à la rentrée scolaire pour les cartables des enfants? On veut qu'ils soient présentables à l'école. C'est normal. C'est la gloire des parents. C'est les... Donc, on veut qu'ils soient présentables. Paul a des enfants spirituels. Il est évangéliste, mais il est sacrificateur. Et il veut que ses enfants spirituels, comme il dit dans Galates, vous pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, soient présentables pour Dieu. Vous suivez? Il va les élever, ses enfants. Il y a une éducation spirituelle. Il va faire des disciples. C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc on a besoin d'être. Ça veut dire que la vision, c'est d'être des parents spirituels, c'est de faire des disciples. On est une famille spirituelle. On veut que les enfants soient présentables, pas juste présentables pour la bonne image, mais qu'ils soient vraiment éduqués, qu'ils soient vraiment sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Et que l'éducation qui au départ est quelque chose qui est un peu extérieur puisse devenir intérieur, afin que ces enfants, une fois qu'ils auront grandi dans la maison, eh bien, ils soient eux-mêmes porteurs de cette culture familiale, de cette éducation, et que les gens puissent dire, même quand vos enfants sont partis au loin, mais je retrouve le père dans le fils, ou je retrouve la mère dans la fille, etc. Vous suivez? Donc, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Et puis, cette notion d'être sacrificateur et d'une offrande qui est présentée à Dieu, ça va encore plus loin. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains chapitre 12? Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Paul leur dit aux Romains, c'est pour ça qu'il parle de cette hardiesse au verset 15, pour réveiller leurs souvenirs, comme pour leur dire, mais les amis, vous n'avez pas juste reçu l'évangile pour vous. Mais le but, c'est que vous offriez votre vie comme un sacrifice vivant, que vous soyez utile à Dieu, que l'offrande de vos vies puisse servir à Dieu. De même que Christ s'est offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 4 et 5. Amen. Et donc le but de l'évangile, ce n'est pas juste pour nous. Le but de l'évangile, c'est que notre vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. Et que ce soit un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Et donc on est des sacrificateurs. Et on est des sacrifices. Et on est des fils. Et on est des filles. Et l'évangile, c'est ça. Tout à l'heure, on suivra à partir du verset 17. À tout de suite. Attendez.